Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après le journal, nous retrouvons Christophe Mallet pour le rétro sonore. Et cette semaine, direction Barcelone, plus particulièrement la Sagrada Familia. Puis vous avez rendez-vous avec Europa Voice qui analyse la position de l'OTAN face à la Russie. Et enfin, un nouvel épisode de la très belle série Bébé Covid qui nous fait partager l'expérience d'une maman ayant eu un bébé durant les différents confinements l'année dernière. Tout de suite, votre journal. Un journal principalement consacré à la guerre en Ukraine, 130 personnes ont pu être sauvées des décombres du théâtre de Mariupol, bombardé mardi dernier par les opérations de secours, sont toujours en cours, on écoutera le président ukrainien. Les tensions continuent de monter entre les différents pays européens et la Russie après la Bulgarie. Les trois pays baltes ont annoncé l'expulsion de 10 diplomates russes. Le Kremlin promet une réponse à ces expulsions qu'il juge injustifiées. Puis, conséquence de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole continue de flamber. Et cela ne va malheureusement pas s'arranger selon l'Agence internationale de l'énergie. Il manquera 2,5 millions de barils de pétrole russe par jour dès le mois prochain. Profitant du 8e anniversaire de l'annexion de la Crimée par la Russie, le président russe Vladimir Poutine, face à des dizaines de milliers de supporters dans un stade de football à Moscou, a affirmé à plusieurs reprises que l'invasion de l'Ukraine était destinée à sauver les Russes vivant en Ukraine d'un génocide. Le président Poutine a par ailleurs félicité l'armée russe pour son action en Ukraine.
Vous savez, мне приходят в голову слова из священного писания.
Words from the Holy Bible come to my head. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. And the best illustration for this is the way our guys fight and act during this military operation. Shoulder to shoulder, they help and support each other. And if needed, they would take a bullet for one another in the battlefield.
Le président Poutine a déclaré pendant ce rassemblement que l'action menée en Ukraine était nécessaire, justifiant du fait que les États-Unis utilisent le pays pour menacer la Russie. Quant à l'Ukraine, le pays se bat pour son existence et affirme que les accusations de génocide par le président Poutine sont absurdes. 23e jour de combat en Ukraine. Hier, dans la matinée, c'est une usine aéronautique qui a été détruite par des missiles russes dans la ville de Lviv, près de la frontière polonaise. À Mariupol, ville stratégique du sud-est, la situation est critique et fait face à des bombardements incessants, selon la mairie, et annonce de nombreuses destructions. L'armée russe, pour sa part, annonce qu'elle se bat désormais dans le centre-ville, Mariupol, où un théâtre habitant un millier d'Ukrainiens a été bombardé mardi. Le président ukrainien Zelensky a annoncé que les opérations de secours étaient toujours en cours.
Les opérations de secours sont en cours sur le site bombardé par les occupants russes. Le théâtre où les habitants de Mariupol s'étaient cachés des bombardements, l'utilisant comme un abri. On sait qu'à l'heure actuelle, plus de 130 personnes ont été secourues. Mais des centaines d'habitants de Mariupol sont toujours sous les décombres. Malgré les bombardements, malgré toutes les difficultés, nous continuerons les opérations de secours.
Après des interventions devant le Sénat aux États-Unis et le Bundestag en Allemagne, le président Zelensky s'adressera aux députés français par vidéo mercredi prochain. Les pourparlers entre Kiev et Moscou se poursuivent. Le chef de la délégation russe affirme constater un rapprochement en déposition sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine et des progrès sur une éventuelle démilitarisation du pays. Mercredi, Kiev évoquait des contradictions profondes, mais un compromis est encore possible. La situation en Ukraine qui était au cœur d'un échange qui a duré plus de 2 heures hier entre les présidents américains et chinois, le premier depuis le début de l'invasion russe. Les conflits militaires sont dans l'intérêt de personne, a déclaré le président chinois. Il a aussi estimé que les relations entre les États ne peuvent aller jusqu'à la confrontation armée. Les États-Unis pressent la Chine de prendre ses distances avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Sur le plan international, la Russie continue à être isolée. Plusieurs pays ont annoncé l'expulsion de diplomates russes. Après la Bulgarie, c'est au tour des 3 pays baltes d'annoncer le renvoi de 10 employés de l'ambassade de la Fédération de Russie. À Tallinn, Vilnius et Riga, Yelena Tomich pour RFI.
La tension est montée d'un cran ce vendredi entre Moscou et plusieurs capitales d'un pays balkanique, la Bulgarie, et des 3 pays baltes qui, à quelques heures d'écart, ont annoncé l'expulsion de 20 diplomates russes au total. La Lettonie expulse 3 employés de l'ambassade russe en raison d'activités contraires à leur statut diplomatique. Le pays dénonce aussi une violation flagrante du droit international que constitue l'opération militaire russe en Ukraine. Cette décision a été coordonnée avec la Lituanie et l'Estonie qui ont décidé de leur côté de renvoyer respectivement 4 et 3 diplomates russes, déclarés aussi persona non grata en solidarité avec l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, la Bulgarie avait indiqué vouloir expulser 10 diplomates pour, je cite, « des activités non conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », une formule souvent utilisée en langage diplomatique pour signaler des activités d'espionnage. Les diplomates ont l'obligation de quitter le territoire dans les 72 heures. Le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement réagi et prévenu qu'il apporterait une réponse appropriée à toutes les expulsions injustifiées.
Dans ce contexte extrêmement tendu entre Russes et Occidentaux, 3 cosmonautes russes ont décollé à bord d'une fusée Soyouz direction la Station Spatiale Internationale. Ils seront accueillis notamment par une équipe de 2 Russes, 4 Américains et 1 Allemand. Conséquence de ce conflit, le prix du baril de pétrole continue de flamber et pour y faire face, l'Agence internationale de l'énergie a dévoilé hier des mesures pour réduire rapidement la consommation de pétrole. Par exemple, baisser la vitesse sur autoroute, travailler depuis la maison jusqu'à 3 jours par semaine ou encore organiser des dimanches sans voiture. Afaid Barol est le directeur exécutif de l'agence et craint sur les mois à venir d'une crise sur l'offre mondiale.
À cause de l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales contre Moscou, nous estimons qu'à partir du mois prochain, il manquera 2,5 millions de barils de pétrole russe par jour. Deuxième raison qui va accentuer la pression sur le marché. Nous entrons dans une saison entre mars et août où la demande en pétrole est maximale. Troisième raison, les réserves de l'industrie pétrolière sont historiquement basses. Ces 3 raisons font que la situation du marché sera pire qu'aujourd'hui.
Afaid Barol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. L'agence spatiale américaine a déployé une fusée géante qui va marquer son retour sur la Lune. Cette nouvelle fusée se dirige actuellement vers la rampe de lancement au Kennedy Space Center en Floride pour une série de tests avant de décoller vers la Lune vers la fin de l'année. Connue sous le nom de Space Launch System, c'est la fusée la plus puissante du monde. Elle aura pour but d'emporter le vaisseau spatial Orion sur une orbite autour de la Lune et sera plus éloignée que sa sœur jumelle Apollo. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la mission comporte 3 volets.
It'll be about a 30-day mission around the moon. It'll go further than any other space American or human spacecraft. That having tested successfully in 2 years, we'll have the first crew and they will orbit the moon and come back. And number 3 is going to be the human crew that will get into the lander in lunar orbit and go down to the surface.
Alors que démarre la semaine de la culture et de la diversité, le CEH, qui est un centre dédié à la culture, l'ethnicité et la santé, lance un nouveau site internet pour les différentes communautés du Victoria. Conçu pour faciliter la recherche de documents, ce nouveau portail internet sera un guichet unique offrant une gamme de ressources importantes, notamment sur les questions de santé et de bien-être. Il sera traduit dans plus de 100 langues. La directrice du centre, Bernice Murphy, a déclaré à SBS News qu'il s'agissait de la bibliothèque en ligne multilingue la plus complète au monde dans cette thématique.
We believe it to be the only one of its kind that has the sort of breadth of information across a whole range of different topics that are largely called the social determinants of health when you think about them all together. So it is one place where you can go for a whole lot of information, all developed in Australia, translated by accredited translators in Australia, and has had some sort of community checking process happen with it. So we can be reasonably confident that it's suitable for the audience that it's intended.
En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern a déclaré que le gouvernement demanderait la levée de certaines restrictions liées au Covid-19 la semaine prochaine. Madame Ardern répondait aux propositions du parti d'opposition, le Parti national de Nouvelle-Zélande, selon lesquelles le gouvernement mettrait trop de temps à lever les dernières restrictions. La première ministre affirme que le pays souhaite désormais s'ouvrir au reste du monde et attirer à nouveau les touristes.
There is more that we can do to attract working holiday visa holders to come into New Zealand, and that market sits across the UK, Canada, the United States, Australia. We traditionally haven't had to market particularly, but in this environment right now, I have been talking with Tourism New Zealand, and I'd like to bring Immigration New Zealand in to work together around promoting New Zealand as a working holiday option to try and bring in that extra workforce we need.
En sport, Collingwood a remporté le match face à Saint-Kilda lors du premier tour de l'AFL. Ils ont mené de 17 points. L'entraîneur Piers Greg McRae a fait l'éloge de la recrue Nick Dacos, le fils de Peter Dacos, qui a fait ses débuts dans l'AFL.
Nick's an elite decision maker and kick, and it's just nice to do that in an AFL game. Like you can do it in an AFL series or in the practice games, but actually to do it, you know, in front of a crowd and with the opposition trying to take things away from him, that's really pleasing for him.
Dans le NRL, les Sydney Roosters ont dominé les Sea Eagles 26-12 avec une belle performance de James Tedesco au Sydney Cricket Ground. La météo de ce samedi, Perth, temps nuageux avec un maximum de 29 degrés. Adelaide, journée placée sous le soleil, 32 degrés. Melbourne, journée ensoleillée et un maximum de 29 degrés. Hobart, exactement le même programme, mais seulement 22 degrés. Canberra, placée sous les nuages et 24 degrés prévus au thermomètre. Sydney, journée pluvieuse et 24 degrés. Brisbane, 28 degrés, alternance de nuages et d'éclaircies. Cairns, averse et un thermomètre qui frôlera les 31 degrés. Et enfin, à Darwin, averse et risque de orage pour un maximum de 34 degrés. Un journal principalement consacré à la guerre en Ukraine. 130 personnes ont pu être sauvées des décombres du théâtre de Mariupol, bombardé mardi dernier. Les opérations de secours sont toujours en cours. Les tensions continuent de monter entre les pays européens et la Russie. La Bulgarie et les trois pays baltes ont annoncé l'expulsion de 10 diplomates russes. Le Kremlin promet une réponse à ces expulsions qu'il juge injustifiée. Puis, conséquence de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole continue de flamber. Cela ne va malheureusement pas s'arranger.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench. SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et notre rétro sonore pour aujourd'hui, nous sommes le 19 mars et direction l'année 1882. La première pierre de la Sagrada Familia, basilique de Barcelone, était posée. Quelques mois plus tard, le catalan Antoni Gaudí en devenait l'architecte principal. La Sagrada Familia est devenue l'œuvre de sa vie. Aujourd'hui, 140 ans plus tard, la basilique n'est toujours pas achevée. Mais symbole de Barcelone et de la folie créatrice de Gaudi, qui est décédée en 1926, eh bien elle attire chaque année près de 5 millions de visiteurs. De la première pierre, donc du 19 mars 1882 à aujourd'hui, c'est notre rétro sonore avec les archives de l'INA et des extraits d'une émission des Racines et des Ailes consacrée à la Sagrada Familia.
Il a consacré sa vie à cette œuvre et l'a laissée inachevée en héritage. La Sagrada Familia à Barcelone, le rêve fou de Gaudi, un monument en construction permanente.
Si avec le prince Louis II de Bavière, on avait affaire à un amateur éclairé, et avec le facteur cheval, à un amateur tout court, avec Gaudi, on est cette fois en présence d'un artiste professionnel.
Alors Antoni Gaudi était-il un génie ou un fou ? Fils de chaudronnier et catholique très pieux, le jeune architecte reprend le chantier de la basilique à 30 ans à peine, en 1883, un an après le début de la construction. Le temple expiatoire de la Sagrada Familia apparaît d'abord comme un édifice néo-gothique. Puis il se transforme sous la direction de Gaudi. Les Barcelonais prennent l'habitude de vivre à ses côtés.
Gaudi a été salué en son temps comme un précurseur. Les surréalistes lui ont rendu hommage et se sont inspirés de lui. Il n'en reste pas moins qu'en face des œuvres de Gaudi, on a plus envie de parler de curiosité, d'insolite, de défi que de beauté, même si celle-ci nous apparaît quelquefois présente. On a dit un jour à Gaudi, alors qu'il construisait sa cathédrale laissée inachevée de la Sagrada Familia, « Vous bâtissez la dernière cathédrale. » Certain d'innover l'art de demain, Gaudi a répondu « Non, ce que je construis, c'est la première cathédrale du futur. »
La ville veille jalousement sur ce patrimoine architectural que sont les maisons de Gaudi. Ce sont des symboles autant que sa cathédrale, la Sagrada Familia, chef-d'œuvre d'art nouveau, toujours en chantier et jamais terminé.
Dans le paysage de Barcelone, elle est incontournable. Majestueuse, captivante, Sagrada Familia. Une basilique, son architecture, sa forme, elle ne ressemble à aucune autre. Sortie de l'imagination d'Antoni Gaudi, un chef-d'œuvre toujours en travaux. Et à l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. La voûte, ornée d'or, la signature de l'architecte Gaudi. Les tons, les courbes, les sculptures, la Sagrada a été ciselée, de la dentelle inachevée. Car sous l'œil des touristes, les grues et les ouvriers s'activent jour après jour.
Nous sommes ici dans un endroit qu'aucun touriste ne verra jamais, le cœur du chantier de la Sagrada Familia à près de 100 mètres de hauteur. Chaque jour, 200 ouvriers s'activent, notamment pour construire les 18 tours imaginés par Gaudi.
Il disait, les gens viendront du monde entier. Et c'est devenu une réalité.
Durant les 12 dernières années de sa vie, Gaudi se consacre exclusivement à la Sagrada Familia et recherche toujours de l'argent pour financer le chantier. En 1926, Gaudi est renversé par un tramway et meurt dans le dénuement. Ses obsèques attirent des milliers de personnes.
Et Gaudi avait pensé à tout. Il a laissé quelques plans, mais surtout des maquettes reproduites à l'identique dans cet atelier, au cœur même de la Sagrada. Un testament pour une œuvre pharaonique.
Imaginez, si on fait une erreur d'un millimètre sur ces maquettes, ça se répercute au moment de la construction et les conséquences peuvent être catastrophiques.
Un millimètre sur des blocs de pierre de 250 kilos. Celles-ci viennent de Barcelone, mais aussi de France, d'Égypte, d'Iran. Chaque motif dessiné par le maître est minutieusement taillé. Et voici le rêve de Gaudi réalisé. En image de synthèse, une folie artistique qui devrait être achevée en 2026, si tout va bien.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/French.
Dans un instant, on se retrouve avec Europa Voice, avec Christophe Mallet et Nathalie Bloch. Ils parlent du rôle de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Puis on écoutera ce superbe titre de Benjamin Biolay, « Comment est ta peine ?» A tout de suite. Europa Voice numéro 93, et comme chaque épisode, eh bien, je suis avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors bien sûr, on va parler de la crise entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Et dans cet épisode, donc épisode 93 d'Europa Voice, c'était intéressant de peut-être d'élargir le débat pour peut-être avoir une meilleure compréhension. Et tout d'abord, on va parler de l'OTAN et pourquoi et comment l'OTAN s'est élargie tant à l'Est et pourquoi ça a frustré tellement les Russes.
Effectivement, Christophe, une des raisons avancées en fait par Vladimir Poutine dans son narratif, si on peut appeler ça en termes de communication, c'est de dire que ce qu'ont fait les Européens est une provocation dans leur élargissement de l'OTAN vers l'Est. Donc, il y a tout un débat. Alors, bien sûr, ça ne présage en rien de la condamnation qu'il y a de l'envahissement d'un pays souverain sur un autre pays souverain, mais en tout cas, ça pose quand même des questions autour de qu'est-ce que l'OTAN, comment l'OTAN s'est installée dans la région, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et pourquoi il y a eu ces éléments déclencheurs qui ont fait qu'on est arrivé à une telle situation aujourd'hui. Alors, il faut savoir que l'OTAN et les tensions avec la Russie, elles sont pas nouvelles. L'OTAN, la construction de l'OTAN elle-même, c'est une construction qui a lieu pendant la guerre froide. L'idée, c'est qu'il y a eu un traité de l'Atlantique Nord un ensemble de pays qui se sont mis ensemble pour faire face, en fait, aux pays de l'Est. Et un des vrais changements, alors de manière assez paradoxale, c'est que quand il y a eu la chute du mur et de l'Union soviétique, l'OTAN, d'une certaine façon, s'est retrouvée sans ennemi officiel en 91. Puisque l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, et le pacte de Varsovie, qui était ce pacte entre les pays de l'Est, a été dissous. Et donc, en fait, c'est, d'une certaine façon, c'est parce qu'il n'y a plus d'URSS, Christophe, que la Russie en tant que telle se sent menacée maintenant par des velléités, encore une fois, selon les dires de Vladimir Poutine, mais des velléités d'expansion de l'OTAN vers l'Est.
Et cet élargissement de l'OTAN vers l'Est, il est voulu par les nations européennes. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par l'Europe, également par les États-Unis. Mais vraiment, l'Europe, c'est vraiment un objectif de s'étendre sur les parties à l'Est, où on s'est rendu compte peut-être du problème quand même.
Alors, j'allais dire, c'est peut-être moins pour le coup une velléité des pays d'Europe qu'on pourrait appeler de l'Ouest, que les pays de l'Est eux-mêmes qui ont commencé à frapper justement à la porte de l'OTAN dans les années 91-93. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de refus, tout simplement parce que l'état de droit n'était pas en place à ce moment-là, parce que tous les critères, en fait, n'étaient pas réunis par les pays de l'Est. Et donc, moi, je dirais plutôt que Christophe, c'est ce que nous apprennent les historiens, c'est que c'est plutôt les pays de l'Est qui, à ce moment-là, ont frappé à la porte de l'OTAN, parce que pour eux, si vous voulez, c'était une des meilleures manières, une des meilleures assurances d'échapper à la tutelle russe. Et surtout, ça c'est un événement, un micro-événement, mais qui a son importance, c'était qu'au nom de la défense des intérêts russophones, après la chute de l'URSS, Moscou n'a pas hésité très rapidement à intervenir militairement. Il y avait eu un conflit dans une région sécessionniste de la Moldavie qui s'appelle la Transnistrie dès 92. Et donc, ça a mis un petit peu la puce à l'oreille des pays de l'Est à ce moment-là de se dire la Russie n'hésitera pas à faire une démonstration de force sur les terrains militaires. Et donc, encore une fois, c'est plus les pays de l'Est qui à ce moment-là se disent ne serait-il pas opportun de rejoindre l'OTAN à une période, Christophe, aussi où la plupart n'étaient pas, la majorité même n'était pas membre de l'Union européenne. Donc, c'était si vous voulez, vraiment la première marche aussi d'un rapprochement à la fois au sein de l'OTAN, mais aussi un rapprochement des pays de l'Est qui allait intervenir une dizaine d'années plus tard au sein de l'Union européenne.
L'OTAN en lui-même, on se souvient, de mémoire, c'était en 2019, il me semble 2018-2019, Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Bon, il a un petit peu changé son avis, je pense, en ce moment, puisqu'il est, en tant que, dans sa position aujourd'hui, il défend aussi la position de l'OTAN. Mais on en sait quoi d'où il en est, en fait, Emmanuel Macron, de la France, de l'Europe, par rapport à l'OTAN?
Alors, encore une fois, je pense que pour comprendre cette citation d'Emmanuel Macron, il faut revenir à ce contexte post-guerre froide. Encore une fois, quand l'URSS s'effondre, que l'Est et l'Ouest sont réunis sur le continent européen, il y a comme une recherche de but qui est faite. Pourquoi, en fait, l'Alliance Atlantique existe? À quoi maintenant elle sert, puisqu'il n'y a plus de menace apparente? Mais, si vous voulez, on a deux éléments qui font que l'OTAN a retrouvé une raison d'être, si vous voulez. Le premier, encore une fois, c'est les velléités des pays de l'Est eux-mêmes de rejoindre l'organisation internationale, cette organisation internationale, pardon Christophe, et c'est l'élargissement à l'Europe centrale et orientale de toutes les alliances politiques possibles, là j'inclus l'Union européenne, qui ont d'abord été le premier déclencheur de « bah oui, peut-être qu'il y a une raison d'être à cette organisation internationale ». Et puis, la deuxième raison, Christophe, qu'on a encore tous, j'imagine, les images en tête, on sait tous où on était à ce moment-là, c'est que le 11 septembre 2001 a littéralement changé la perception de la gestion face à la menace du terrorisme international. Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi le 11 septembre 2001 qui a permis de justifier, en partie, encore une fois, la pérennisation de l'OTAN. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est que avec la présidence de Donald Trump, on a forcément une gouvernance de l'organisation, en tout cas un isolationnisme du président américain qui fait qu'on ne comprend pas très bien, ou en tout cas les alliés européens ont du mal un petit peu à gérer leur présence ou leur coopération au sein de cette organisation internationale. De fait aussi, comme il y a une menace de plus en plus pressante quand même de la Chine vis-à-vis de l'Europe, mais aussi dans la zone Indo-Pacifique dont on parle souvent, Christophe, Europa Voice, tout ça fait que finalement, oui, l'OTAN a trouvé une raison d'être et une raison d'être pérennisée, mais de plus en plus, et la crise ukrainienne peut-être nous le montre encore davantage, on est en train de construire, on en avait parlé au épisode précédent, l'idée d'une défense européenne, d'une Europe politique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un jour, cette Europe politique va avoir plus de poids, d'importance, cette Europe militaire que l'OTAN ? Ça, c'est difficile de le dire maintenant. Mais en tout cas, en quelques mots, comment on est passé finalement d'une OTAN qui n'avait plus de raison d'être en 91 à une organisation qui, aujourd'hui, on le voit, a toutes ses raisons d'être dans le cadre de ce conflit Russie-Ukraine.
Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que la Russie a été officiellement exclue du Conseil de l'Europe. C'est quand même une grosse décision. Expliquez-nous un petit peu l'importance du Conseil de l'Europe et pourquoi cette décision elle est importante pour l'avenir.
Alors, c'est effectivement une décision historique. C'est pas une décision de l'Union européenne. Et ça, c'est important de préciser pour nos auditeurs, c'est que le Conseil de l'Europe, souvent on le confond avec le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est une organisation intergouvernementale qui a pour objectif, entre autres, mais c'est un objectif primordial de cette organisation internationale, de défendre les droits de l'homme, de promouvoir la diversité culturelle de l'Europe et de lutter contre les problèmes sociaux, tout ce qui est discrimination raciale et intolérance. Et surtout, en fait, au sein du Conseil de l'Europe, et c'est là où on va comprendre pourquoi, en fait, la Russie est, c'est qu'on a plus que les pays qui sont membres de l'Union européenne. On a 46 États membres au sein du Conseil de l'Europe. On a évidemment les 27 de l'Union européenne, mais on a plein d'autres pays. On a d'ailleurs des pays extra-européens qui ont des statuts d'observateurs. Une des premières aussi réalisations, Christophe, pour bien comprendre ce qu'est ce Conseil de l'Europe, c'est la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été faite justement par le Conseil de l'Europe et la création d'une Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est là où en tant que citoyen, vous allez faire valoir vos droits quand ceux-ci ne sont pas respectés. Je ferme la parenthèse sur cette explication historique, mais effectivement, c'est une décision historique d'avoir exclu un membre du Conseil de l'Europe. Il n'y avait qu'un seul membre, Christophe, qui avait été exclu avant et temporairement, c'était la Grèce, à la fin des années 60, il me semble. Mais donc là, c'est une décision historique. Alors, les Russes avaient un petit peu pris les devants et eux-mêmes s'étaient retirés. Mais en tout cas, encore une fois, c'est à la fois politiquement et symboliquement extrêmement important. Juste un exemple, si je peux, Christophe, c'est que par exemple, aujourd'hui, en tant que citoyen russe, vous ne pourrez plus faire justement valoir vos droits devant cette Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est encore un peu moins de démocratie, si vous voulez, qui va irriguer la vie quotidienne des Russes. Et la Cour européenne d'ailleurs des droits de l'homme ne peut plus examiner les requêtes qui sont faites justement contre la Russie. Donc décision extrêmement avec une portée et politique et symbolique extrêmement importante.
Et c'est une décision qui restera, C'est une décision qui peut être inversée dans les mois à venir selon la situation et la solution de ce qui peut être trouvé dans ce conflit.
Oui, tout à fait. Comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, la Grèce avait été chassée en 69 sous le régime dictatorial des colonels, la révolution des colonels en Grèce, et elle avait été réintégrée justement la Grèce en 74 au retour d'une vie démocratique plus apaisée. Donc, ce sont des décisions évidemment qui peuvent sur lesquelles on peut revenir. Mais encore une fois, le fait d'exclure un pays, vous voyez, par exemple, même si on prend des pays actuels européens comme la Hongrie, et on avait évoqué ça dans des épisodes précédents d'Europa Voice, c'est par rapport au non-respect de l'état de droit, par rapport aux discriminations, il n'est pas question d'exclure la Hongrie du Conseil de l'Europe. Donc aller jusqu'à exclure, c'est très fort comme décision politique et avec un poids symbolique important. Maintenant, j'espère à la fois pour le pays en tant que tel, la Russie, mais aussi pour les citoyens russes, que effectivement, quand les choses se seront calmées, que la Russie sera réintégrée au sein du Conseil de l'Europe.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et tout de suite, on retrouve un nouvel épisode de Bébé Covid. C'est l'épisode numéro 2 sur SBS.
Vous êtes avec SBS French.
Il n'a pas pu faire les échographies. Il n'a jamais pu être présent, en fait. Aucun de mes rendez-vous. Au début, j'étais triste, mais après, après, t'acceptes. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'il peut être là à l'accouchement, c'est le plus important. Ouais, ça, c'est franchement un événement je ne peux pas rater. Hein.
On retrouve Laetitia à sa 34e semaine de grossesse, début septembre 2020. Melbourne est toujours confinée, mais le Premier ministre, Daniel Andrews, vient d'annoncer un plan progressif de retour vers la normale.
Now is the time to thank every single Victorian family, but the most important thing today is to acknowledge that with zero cases and so much testing over the weekend, not just in the north, but across the whole state, we are able to say that now is the time to open up.
Fidèle à elle-même et malgré ce long confinement, Laetitia est toujours aussi positive. Ses rendez-vous médicaux se font désormais en personne, elle s'intègre bien dans la famille de son fiancé et se prépare à accueillir Charlotte.
Oui, maintenant tous mes rendez-vous seront en face-to-face. Parce que c'est la fin de la grossesse, donc il doit vraiment checker le cœur du bébé à chaque fois que je vais au rendez-vous. Tu fais un blood test. Quoi d'autre? J'ai encore une échographie dans 2 semaines. Normalement, ça devrait être la dernière échographie.
Jusqu'ici, sa grossesse s'est déroulée à merveille. Mais arrivée bientôt au terme, Laetitia admet ne plus supporter le port du masque.
Je n'arrive plus à bien respirer. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui à la midwife. Et je respire pas du tout bien avec les masques. Et donc, elle s'est dit que c'était peut-être à cause de mon manque de fer. Donc, ils vont voir dans les résultats. J'ai fait un blood test aujourd'hui. Donc, si j'ai encore une carence en fer, ils vont peut-être devoir me faire une fille à transfusion. Ça pourrait être ça. Mais en attendant, elle m'a aussi donné un face shield. Tu vois, parce que n'arrive pas. Donc, elle m'a dit ça, au moins, ça te permettra de mieux respirer quand tu vas marcher, quoi. Le seul exercice que je fais, c'est marcher.
La petite Charlotte va bientôt naître. Laetitia et Jason commencent à réfléchir à l'accouchement.
Apparemment, c'est conseillé de faire debout pour la gravité. C'est logique. Donc, moi, je vais essayer. Et aussi le bathtub. J'ai aussi demandé la baignoire, parce que j'aime bien être dans l'eau chaude quand j'ai mal au ventre ou des choses comme ça, donc ça pourra m'aider. Moi, j'ai dit natural, si ça va pas, vous me donnez du gaz, et si ça va pas, epidural. Voilà. Je suis pas contre l'epidural, c'est vraiment, je supporte pas, voilà, je dirais vaut mieux ne pas trop souffrir. J'ai aucune idée. Je sais pas à quoi m'attendre, donc on verra bien. Mais j'ai aussi étudié tout ce qui était hypnobirthing pour apprendre à respirer, rester calme. Donc on verra si ça marche ou pas. Ensuite, il te demande si tu veux faire. Oui, si le bébé sort pas tout de suite, et ben tu peux refuser qu'ils utilisent le forceps et qu'ils fassent une épisiotomie. Mais bon, évidemment, si le bébé est en danger, ils le feront sans ton accord, évidemment. Mais des choses comme ça, tu peux dire oui ou non. Aussi, au moment où le bébé sort, il demande ben, si tu veux que ton partenaire coupe le cordon. Et on a aussi demandé qu'il coupe pas tout de suite parce qu'apparemment, les nouvelles recherches disent que c'est, il vaut mieux attendre avant de couper le cordon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, après, il demande, une fois que le bébé est né, etc., il y a skin-to-skin contact. Donc, moi, j'ai demandé d'avoir ça. Et puis que Jason ait aussi le skin-to-skin contact avec la petite. Parce qu'apparemment, c'est important. Et alors, j'ai aussi demandé que le bébé ne quitte jamais ma chambre. Bon, en fait, c'est parce que j'ai vu trop de films où les bébés ont été changés. C'est la seule raison pour laquelle le bébé sort de la chambre. Donc, tu peux exiger ça. Donc, du coup, ça m'a rassurée que je pouvais l'exiger. Ouais, je serais toute seule dans la chambre. Mais ça, c'est seulement parce que moi, je fais public, pas private. Mais à cause de COVID, ben, en fait, ils préfèrent mettre les patientes toutes seules. Donc, c'est l'avantage de COVID. J'aurai ma propre chambre pour une nuit. Puis alors, après, on rentre à la maison.
Covid oblige, Laetitia ne pourra pas recevoir de visiteurs à l'hôpital et son séjour sera plus court qu'à l'habitude.
Oui, il n'y a pas de visite. Et il te laisse même quitter l'hôpital 6 heures après l'accouchement si tout s'est bien passé. Parce qu'ils disent que c'est encore. Il vaut mieux que tu sois à la maison qu'à l'hôpital en fait. Hein. Ouais, moi, je partirai 6 heures après l'accouchement si tout va bien. Ça ne me fait pas peur. Moi, s'ils me disent vraiment le bébé est en parfaite santé, tu es en parfaite santé, tout va bien. Il y a un numéro d'urgence, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on n'est pas loin de l'hôpital, je m'inquiète pas trop. Exactement, je me dis qu'il y a plus de risques à l'hôpital que chez moi, à la maison.
Pour ce qui est des visiteurs à la maison, le couple a choisi ce qui fonctionnait pour eux, un compromis entre ce qui se fait habituellement en Belgique, en Australie, et les traditions chinoises des parents de Jason.
On verra aussi avec les nouvelles restrictions de Dan Andrews. On verra si après l'accouchement, je pourrai avoir des visiteurs. En tout cas, si je peux avoir des visiteurs, on a décidé d'avoir juste les parents de Jason et moi, un couple d'amis, pour qu'il n'y ait pas trop de gens le premier mois, parce que toi, la petite, je sais pas, son système immunitaire, juste pour être, toi, careful. Je sais qu'en Belgique, directement, t'as toute la famille, tous les amis qui viennent, mais j'ai pas trop envie de ça. Et puis aussi, dans la tradition chinoise, en fait, normalement, t'es pas censé avoir des visiteurs. Ils vont pas me forcer, hein, mais la maman de Jason m'avait appelé il y a 2 jours pour me parler de toute la tradition après l'accouchement. Donc, elle me disait, ah oui, tu peux pas avoir de visiteurs, tu peux pas sortir de chez toi pendant un mois, t'es pas censé te prendre de douche, laver tes cheveux, blablabla. Et je lui disais, mais non, mais jamais, quoi. Et je fais, si franchement... il y a plus de restrictions, que je peux sortir enfin et me faire des grandes balades. Je vais pas rester à la maison, hein. Je suis à la maison depuis mars. Ah franchement non, je dis là j'aurais besoin de ma liberté. Hein. Et puis apparemment il y a aussi de la soupe. Tu dois boire de la soupe de poulet et alors il y a une autre recette avec du porc, des champignons, du vinaigre, etc. Et donc, elle va m'apporter ça et je dois boire ça pendant un mois tous les jours. C'est pour nettoyer l'utérus. Bon, si ça peut m'aider, etc., pour récupérer après l'accouchement, pourquoi pas. Quoique, on a quand même cuisiné quelques plats qu'on a déjà mis dans le congélateur. C'est ma midwife qui m'avait conseillé. Elle m'a dit, ah, tu sais, les premières semaines, tu n'auras pas trop de temps avec le nouveau-né. Et donc, elle m'avait conseillé de déjà préparer quelques plats, de les mettre au congélateur, ce qu'on a fait avec Jason. Et puis, on aura les plats de sa maman. La connaissant, elle va m'apporter la soupe tous les jours. L'avantage avec le confinement, c'est qu'elle sera peut-être pas venir me voir tous les jours. Normalement, la grand-mère vient te voir tous les jours. Et franchement, j'ai aucun problème avec la famille, on s'adore trop. Mais tous les jours, quand même, c'est un peu trop. Mais ils me connaissent, hein. Ils savent que je suis très directe, parce que tu sais, les Australiens, bon, pas tous les Australiens, mais de manière générale, c'est une culture un peu moins directe. Ah, tu veux toujours faire attention à ne pas blesser les personnes. Je pense que dans notre culture, on ne pense pas trop à ça et on est très, très direct. Non, c'est non. Et donc, ils me connaissent, ils savent comment je parle. Les limites avec eux et ils savent, hein. Ils n'essayent pas.
On retrouve Laetitia une dernière fois avant l'arrivée de Charlotte. Nous sommes début octobre et ses difficultés respiratoires avec le masque sont finalement passées.
Je suis plus vite fatiguée, mais sinon je marche normalement, pas trop vraiment comme un pingouin, comme tu vois dans les films, pas trop. Je marche assez normalement, mais plus lentement. Je suis plus vite essoufflée, mais ma respiration meilleure. Tu sais, je te disais que je portais pas les masques. Ben en fait, c'est parce que la petite, elle compressait mes poumons en fait. Et maintenant, comme elle va arriver dans 2-3 semaines, ben ils appellent ça baby drop. Donc en fait, elle est descendue plus vers le bas. Et donc du coup, il y a plus cette pression sur mes poumons. Donc maintenant, je respire bien.
Le couple est prêt, Charlotte peut arriver.
Oui, on est super prêt, on est bien organisé. Comme j'avais dit la dernière fois, la chambre est finie. On a la poussette, le bébé capsule. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais c'est pour la voiture, pour les nouveau-nés. Donc ça, c'est déjà dans la voiture. Mon sac pour l'hôpital est déjà prêt. Un sac pour moi, un sac pour le bébé. Ça, c'est aussi déjà dans le coffre de la voiture, parce que maintenant, elle peut arriver à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, j'ai eu une fausse alerte cette semaine, mercredi. Et quand je leur ai dit les symptômes que j'avais, ils m'ont dit « Ah, ben, il faut venir à l'hôpital tout de suite. » Parce qu'ils pensaient que c'était peut-être que j'avais perdu les os. Donc, ils ont checké le liquide et checké que ce n'était pas ça. Et tout allait bien. Ils ont checké le cœur de la petite. Donc, je suis restée une heure avec eux. Elles sont super sympas, les midwives.
Un court séjour à l'hôpital auquel Jason n'a pas pu assister. À cause du confinement et comme il s'agissait d'une fausse alerte, le fiancé de Laetitia a dû attendre à l'extérieur.
Il aurait pu rentrer si j'étais vraiment sur le point d'accoucher, mais comme ils ont checké que tout allait bien, il n'avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Bah, il devait rester dans la voiture. Bon, maintenant on a l'habitude, tu vois, il n'a pas pu faire les échographies. Il n'a jamais pu être présent, en fait. Aucun de mes rendez-vous. Au début, j'étais triste, mais après, bon, après, t'acceptes. Moi, j'ai toujours dit, tant qu'il peut être là, l'accouchement, c'est le plus important. Et ça, par contre, il pourra être à l'accouchement, donc ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est franchement l'événement, ne pas rater. Hein.
Malgré tous ces rebondissements et comme depuis le début de sa grossesse, Laetitia est apaisée, positive. C'est plutôt Jason qui angoisse à l'arrivée de son bébé, ce qui l'a fait beaucoup sourire.
Il n'est pas du tout préparé. non, il est anxieux, c'est trop drôle. Il est beaucoup plus anxieux que moi. Moi, je ne suis pas anxieuse. En fait, moi, je ne ressens pas du tout d'anxiété. Peut-être que je le suis, mais je ne le ressens pas. Lui, il le ressent vraiment... il dit toujours ouais qu'elle reste bien jusqu'à la fin hein, dans le ventre et moi je suis là non man, je suis prête, elle peut sortir maintenant. Mais sinon il y aura pas de problème hein, c'est un super papa c'est juste qu'il est un peu anxieux, tu vois, il sait pas à quoi s'attendre, les pleurs la nuit, en fait je pense qu'il a peur, il a peur de pas avoir assez de sommeil. Puis si ça tombe, on aura un petit ange, elle fera ses nuits après 2 mois, tu sais jamais hein.
Dans le prochain et dernier épisode de Mon bébé Covid, Laetitia nous raconte l'arrivée de Charlotte, leur premier moment ensemble. Mais comme c'est souvent le cas avec l'arrivée d'un nouveau-né, cela ne s'est pas du tout passé comme prévu.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Le retour sur les principaux titres d'aujourd'hui. 130 personnes ont pu être sauvées des décombres du théâtre de Mariupol, bombardé mardi dernier. Les opérations de secours sont toujours en cours, selon le président ukrainien. Les tensions continuent de monter entre les pays européens et la Russie. Après la Bulgarie, les trois pays baltes ont annoncé l'expulsion de 10 diplomates russes. Le Kremlin promet une réponse à ces expulsions qu'il juge injustifiées. Puis, conséquence de la guerre en Ukraine, le prix du pétrole continue de flamber et cela ne va malheureusement pas s'arranger. Merci d'avoir écouté le programme SBS en français. Vous pouvez réécouter ce programme sur toutes les plateformes, sur le site internet d'SBS et sur toutes les autres plateformes à votre disposition. Nous nous retrouvons mardi pour d'autres actualités. Et en attendant, vous avez toute une série de podcasts à votre disposition sur le programme SBS. À très bientôt et passez une excellente journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.